Radio Canyon présente dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre. Du sang pour les élus. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP. La barre de fer qu'il avait à la main sur le prêtre qui la reçoit en pleine figure et tombe à terre sur le dos. Il court vers le prêtre. Je crois qu'il est mort. Il faut faire vite. Si les vivants, nous risquons d'être pris. Ils vont vers la trappe. Richard crie. Père, où en êtes-vous? Que faites-vous?
Descendez. J'ai trouvé un tombeau, mais je n'arrive pas à l'ouvrir.
Descends d'en bas. Se trouve une pièce carrée avec au centre un tombeau. Au-dessus se trouve une statue qui représente un roi couché. Il a une couronne, habillé d'une armure, une hache. Le tombeau et la statue sont d'une grandeur exceptionnelle. Au pied de la statue se trouvent des lettres hébraïques.
Je ne sais comment il faudrait faire pour ouvrir le tombeau.
Xavier demande. Êtes-vous sûr que c'est lui?
Vu la grandeur du tombeau, oui. Car nos ancêtres étaient des géants, mais l'on ne peut être sûr qu'en l'ouvrant.
Xavier dit, il doit y avoir un mécanisme qui doit ouvrir. Il faut sûrement toucher une partie du tombeau. Il tourne autour du tombeau. Essayons les lettres. Richard se penche. Il enlève la poussière et touche les lettres hébraïques. Il y en a une qui pivote. Un bruit sourd. La dalle du tombeau pivote elle aussi. Une fumée blanche sort du tombeau qui a une odeur désagréable. Ça les fait tousser. François leur dit, c'est comme si lorsque l'on ouvre une pyramide. Écartez-vous, je vais voir. Ils s'écartent. François s'approche du tombeau. La fumée s'évapore un peu. Et il voit la forme d'un corps qu'il ne peut vraiment voir à cause de la fumée, et aussi d'une lumière qui provient de lui. Ce corps ressemble à la statue et est habillé de même. Il est aussi grand qu'elle. Ah, sa main gauche brille une bague qui semble être en or et un flacon en verre plein d'un liquide rouge jaunâtre est à ses côtés. Le flacon est guère plus grand qu'une petite carafe d'eau.
Richard, c'est bien le tombeau. Venez voir.
Il s'approche et regarde. Richard dit,
comme il est grand et majestueux. Comment cela fait-il qu'il n'ait pas été putréfié? Il a dû être certainement embaumé. Je vais prendre la bague et le flacon.
Xavier demande, que contient-il?
C'est son sang.
François prend le flacon, la donne à Richard, et la bague, il se trompe, il la donne à Xavier.
Tout à coup,
la fumée vient plus dense. La fumée qui sort du tombeau devient tout dense. Il suffoque. Perd l'équilibre. Richard tombe. Juste avant de tomber, il a eu le réflexe de donner le flacon à Xavier pour qu'il ne se brise pas. Ils se dirigent tous vers la sortie du tombeau. Car c'est vraiment irrespirable. Xavier est bien et devant et tient précieusement les reliques. Il a aussi des difficultés à respirer. Monte les escaliers. Ils le suivent comme ils peuvent. La fumée est de plus en plus dense. Xavier monte les escaliers. Ils sont derrière lui. Xavier se retourne et voit tomber à la renverse le père et le fils. Se referme. Et la fumée s'est estompée. Il les voit en bas, inanimés, à terre sur le dos. Il descend. Ils ne bougent plus et leur corps non plus. Xavier est prêt à avoir une crise de nerfs, mais quelque chose lui dit qu'il ne faut pas, qu'il retrouve Hélène. Il remonte les escaliers avec à la main la bague et le flacon. Il va remonter. Il voit le corps du prêtre. Là aussi, quelque chose lui dit qu'il faut le cacher. Alors il tire le corps au bord des escaliers et le pousse. corps a dégringolé jusqu'en bas. Xavier referme la dalle. Prend la barre de fer pour la remettre à sa place. Tout est en ordre. Il peut sortir de l'église. Dehors, tout est calme. Il va retrouver Hélène dans sa chambre d'hôtel. Il a frappé, elle lui ouvre. Elle est en chemise de nuit blanche. Elle voit les reliques. Il lui prend des mains, elle les dépose sur la table.
Vous avez réussi. J'en suis très heureuse. Mais où sont-ils ?
Ils sont morts. Xavier va s'asseoir sur le rebord du lit. Il se met à ses côtés.
Que s'est-il passé ?
Une fumée qui provenait du tombeau les a asphyxiés. Et Xavier lui raconte ce qui s'est passé. Hélène soupire.
Pauvre François, pauvre Richard. Mon petit,
vous, vous avez été épargné parce que vous teniez les reliques, Xavier dit. C'est Richard qui les a reçues et c'est lui qui aurait dû être sauvé.
Vous n'êtes pour rien, Xavier. Je suis seul. Nous sommes seuls. Nous n'avons pas le droit de pleurer. Il faut penser à ce que nous sommes. Le monde nous est hostile. Vous avez peut-être été vu ou entendu. Et puis la disparition du prêtre va faire venir les gendarmes. Demain matin, nous partirons pour le moment. Cela ne sert à rien de continuer le voyage. Nous allons rentrer à Lyon. Allez vous coucher, tâchez de dormir. Moi, je vais en faire autant. Et demain matin, à 8 heures, nous partirons. Elle l'embrasse.
Elle le fait sortir de sa chambre. Le lendemain matin, ils sont partis. Le voyage du retour se fait dans la tristesse. Xavier se dit qu'après cette aventure, il sait que l'histoire de la race prodigieuse est vraie. Arrivée à Lyon, Hélène lui a demandé de rester avec elle. Une fois qu'ils se sont changés, reposés et restaurés, Xavier est allé à sa chambre. C'est une chambre d'amis style empire. On frappe à sa porte.
Il va ouvrir. C'est Hélène en robe noire. Il la fait entrer. Je vais vous parler, Xavier. Elle va s'asseoir sur une chaise. Xavier s'assoit sur le rebord du lit. Voici, nous ne sommes que tous les deux maintenant. Il faut que la lignée continue. Nous sommes tous deux de la même race. J'ai bien réfléchi, nous avons un devoir à accomplir. C'est dur pour une femme de dire ces choses-là, mais il le faut. Vous devez me mettre enceinte, c'est pour la lignée. Et je ne sais même pas si je pourrais mener à terme cette tâche. Nous devons nous exécuter le plus vite possible. On ne sait pas, nous serons peut-être obligés de recommencer plusieurs fois. Xavier est tout rouge, il baisse la tête, elle lui prend la main et la lui serre. Il le faut, Xavier, ne craignez rien, je ferai tout pour vous aider. Et elle se lève. Il sort de la chambre. Xavier est confus. Il est gêné par cette demande. Quelques jours après la mort de son mari et de son fils, elle va vite en la besogne. Il se dit aussi qu'elle le fait par devoir. Ce n'est pas une femme ordinaire. Malgré son malheur, elle reste digne, noble, courageuse. Pourrais-je l'aider? Pourrais-je l'aider? Le lendemain, de toute la journée, il n'ose pas la regarder. Elle a l'air d'être comme tous les autres jours. Le soir, pendant le dîner, elle le fait boire. Puis, après le repas, ivre, elle lui dit de monter se coucher. Bonne nuit, Hélène. Bonne nuit, Xavier. Et il monte à sa chambre. La nuit, il est réveillé par une caresse sur la joue. Il voit ses côtés Hélène nus. Elle se couche sur lui et l'embrasse sur les lèvres. Puis, elle lui déboutonne sa veste de pyjama, lui baisse sa poitrine, descend. Et arrivée à la taille, elle lui descend son pyjama. C'est que Xavier bande dans son petit slip blanc. Elle le délivre. Une fois nu, elle monte sur lui. Prend son sexe et se le met. Xavier a joui. Lorsqu'il s'est réveillé, elle n'était plus là. Il l'a retrouvée pour le petit déjeuner dans la salle à manger. Elle était en train de manger. Bonjour, Xavier, j'ai une faim de loup. Assieds-toi et mange. Toi aussi, tu dois avoir faim.
Il s'assoit et se sert.
Passez une bonne nuit, j'espère.
Oui.
Oh, vous les hommes, vous êtes toujours grognons après. Je te remercie. Dans quelques jours, j'irai voir le médecin pour savoir si c'est bon. Il faut aussi que j'aille à la police déclarer la disparition de mon mari et de Richard. Xavier, dites-vous bien, c'est pour eux que j'ai fait ça. Continuez à rester chez moi. Si la police vient vous interroger, vous leur direz que ce que je vais vous dire. Tu leur diras. Oui, tu, que tu es un ami de Richard, qu'il t'avait invité et qu'il t'a dit de t'attendre chez lui. Je vais dire qu'ils sont partis tous deux en voiture pour l'Allemagne, pour affaires, et que nous devions les attendre et que je suis inquiète de ne pas avoir de ces nouvelles. Nous avons accompagné jusqu'à Stonay.
Dans l'après-midi, elle est allée au commissariat dire son inquiétude. Le commissaire lui a dit d'attendre encore un peu, puis, si elle n'a toujours pas de nouvelles, ils enverront des recherches. Les jours passent, Xavier se repose tout en se demandant jusqu'où va lui mener cette histoire. Hélène reste allongée dans sa chambre. 3 semaines après leur nuit, elle va voir le médecin qui lui fait le test. Oui, elle est enceinte. Elle le dit à Xavier, qui est ému et a peur. Il se sent trop jeune pour être père.
Maintenant que je suis enceinte, il faut que tu rentres chez toi. Tu comprends, à cause des ragots. Viens me voir tous les samedis soirs.
Il rentre chez lui, surpris après tant d'événements de se retrouver dans sa chambre intacte. Retrouve son travail et la vie continue. Tous les samedis, il va voir Hélène qui reste dans sa chambre.
J'ai peur de le perdre.
Il se distrait en jouant aux dames. Un après-midi, rue de la République, Xavier rencontre Sylvie. Elle lui dit « Tu es de retour ?»«
Oui. » »«
On se revoit ?»«
Non, je ne peux pas. » »«
Mais non ?»«
Tu ne me regretteras pas ?»«
Et si on passait la soirée ensemble ?»«
Non, je ne peux pas. » »«
Viens, comme tu veux. » Et elle le quitte. Xavier a refusé parce qu'il se sent en devoir à ce qu'il est. Il sait qu'il fait partie de la race prodigieuse et cela lui donne des devoirs de noblesse, pureté et d'absolu, d'être au-dessus des autres. La police a fait un appel de recherche. Elle a enquêté, même Xavier a été interrogé. 6 mois plus tard, ils ont été portés disparus. Les mois passent, 9 mois, Hélène a été menée d'urgence à la clinique. Xavier les a accompagnés. Il a attendu dans la salle d'attente qu'elle accouche. L'infirmière lui a dit que c'était un garçon, mais que la mère était trop faible. Elle pourrait recevoir la visite que le lendemain. Le lendemain, il va voir Hélène. Elle est couchée, pâle, maigrie. Il s'approche d'elle. L'embrasse. Elle lui dit,
« Je savais en mettant au monde l'enfant que j'allais me perdre. Je vais mourir. »
Xavier veut protester.
« Chut, tais-toi.
Laisse-moi te parler. J'ai très peu de temps. Je t'en supplie. Il faut que tu gardes notre enfant. Il a été déclaré à la mairie à notre nom. Tu es le père officiellement. Et le notaire a été prévenu. Tu prendras notre fils. L'éduqueras. Le notaire te remettra les papiers de Nostradamus, la bague et le flacon. Tu vois, tu dois retourner à Stonnet. La clé pour déchiffrer les écrits de Nostradamus. N'oublie jamais que toi et ton fils, vous êtes la race prodigieuse des Mérovingiens et que vous devez régner en France. Maintenant, laisse-moi. Je me suis sacrifié pour mon fils, pour qu'il règne, comme Louis XVI l'a fait dans sa fuite suicidaire pour légitimer son fils.
Et elle meurt.
Hélène ! Hélène !
Il la secoue, crie.
Hélène ! Hélène !
Sort de la chambre. Crie.
Au secours ! Au secours !
Deux mois plus tard, Xavier vit avec son fils. Il a pris une femme pour s'occuper de lui. Six mois plus tard, il était convoqué chez le notaire qui lui a fait lecture du testament. Hélène lui fait don de ses biens personnels, sa maison au bord du lac, les bijoux et 600 000 francs, en plus des papiers, de la bague et du flacon. La police a interrogé Xavier. Il est convoqué au commissariat dans le bureau du commissaire, qui est un homme mince, les cheveux bruns, le visage sympathique, est habillé d'un costume gris.
Vous étiez son amant.
Que saviez-vous de la disparition de son mari et de son fils?
Rien.
Vous avez pu les faire disparaître pour vivre ensemble?
Ce n'est pas possible. Hélène savait qu'en mettant l'enfant au monde, elle était perdue. Interrogez les médecins.
Et vous, vous le saviez?
Non.
Et pourquoi voulait-elle cet enfant, puisqu'elle savait qu'elle était perdue?
Elle voulait garder derrière elle une descendance. C'était une obsession pour elle. Elle n'avait qu'un fils et trouvait que ce n'était pas suffisant, qu'il pouvait lui arriver quelque chose.
Bon, très bien, vous êtes libre. Mais... l'enquête sous son cours. Si j'ai du nouveau, je risquerai de vous convoquer. Ne quittez pas Lyon.
Et Xavier quitte le bureau. Les mois passent. Xavier mène une vie solitaire avec son fils qui grandit et fortifie. Il travaille toujours dans la librairie, a lu les papiers qui a laissé Hélène, les écrits de Nostradamus et l'histoire de la race prodigieuse. Il a mis dans un coffre à la banque les bijoux, la bague, le flacon et les écrits. Il va fleurir la tombe d'Hélène tous les mois.
Il n'a plus revu Sylvie et ne cherche pas à la revoir. Il sait qu'il doit rechercher. Il sait qu'il doit rechercher la clé qui permettra de déchiffrer les écrits de Nostradamus.
Bonsoir à tous, Canurama. Canurama, magazine radiophonique, culturel, scientifique, ou même artistique, le magazine de la réflexion aussi, sur les ondes de Radio Canu, la plus rebelle des radios, 102.2 FM stéréo, Lyon agglomération. Quand Louis XVI s'enfuit pour rejoindre les armées de l'Empire autrichien, c'est pour se rendre officiellement à Montmédy, ville fortifiée de la Meuse, où il sera protégé. Quand Nostradamus veut se retirer en paix pour méditer et réfléchir au cours des astres, il va séjourner à l'abbaye de Orval, en Belgique actuellement, et pour aller à Orval, il faut passer par Montmédy. Auparavant, il faut traverser quelques bourgades, dont deux attirent l'attention respectivement sur Louis XVI et sur Nostradamus. Une de ces bourgades s'appelle Stenay, et l'autre, Varennes en Argonne. Varennes est une étape logique pour qui veut se rendre à Montmédy et à Orval. Et le passage par Stenay ne représente pas un détour excessif. Nostradamus a séjourné à Stenay, mais on ne sait pas trop à quoi il s'est occupé pendant ce temps, dans cette petite ville. Dans ses centuries, Nostradamus a écrit un quatrain où il est question de Varennes, ce qui a fait dire à beaucoup de gens que Nostradamus avait prédit l'arrestation de Louis XVI. Effectivement, quand on lit ces quatrains, c'est assez troublant, du moins en apparence. Nous en reparlerons tout à l'heure. Malheureusement, le rationaliste qui travaille dans une partie de mon cerveau se dit logiquement, si Nostradamus cite Varennes dans un quatrain, ce n'est pas pour prédire quoi que ce soit, mais plutôt pour avertir quelqu'un, pour donner une consigne par exemple, et cela dans un langage codé. Pourquoi ? Parce que les centuries de Nostradamus ne sont pas le catalogue divinatoire qu'on a trop facilement mis en avant, mais plutôt un ensemble de recommandations codées à l'usage de la famille royale de France. L'ésotériste, bon là c'est plus le rationaliste, mais l'ésotériste, qui sommeille dans une autre partie de mon cerveau, bah lui il se marre. Il dit au rationaliste, accroche-toi, on va se marrer un moment, attache ta ceinture. Le rationaliste lui répond, d'accord, mais je te demande une chose, précise bien aux auditeurs de Radio Canu que notre analyse restera cohérente, même si elle paraît audacieuse, même si elle paraît délirante, et surtout qu'il n'oublie pas que si Louis XVI est passé par Varennes, c'est certainement pour aller à Montmédy comme prévu. D'accord à mon tour, dit l'ésotériste, mais qui te dit que Louis XVI ne devait pas faire un petit crochet par Stenay, puisqu'après tout cela lui était conseillé dans un quatrain de Nostradamus ? Alors, rationaliste, tu ne me feras pas croire qu'un quatrain écrit en 1555 donne des indications de voyage à un roi de France, et un roi qui plus est en perdition, et cela en 1791. Réfléchis un peu, rétorque l'ésotériste. Nostradamus a dit lui-même que ses centuries étaient un avertissement pour la famille des Capétiens. C'est écrit dans sa préface. Nostradamus est un astrologue confirmé, il y en a eu d'autres à son époque. On pourrait citer par exemple un certain Dailly qui était un grand recteur d'université. Alors, astrologue, ça veut dire qu'il a l'habitude de lire dans les astres avec la technique, les connaissances de son époque. Et je dirais même que quelqu'un qui, en 1993, connaît un peu de technique astrologique, reconnaîtra dans le langage de Nostradamus des expressions typiquement astrologiques qui sont celles d'un praticien chevronné. Chevronné, voilà un terme qui devrait mettre la puce à l'oreille de ceux qui savent entendre. Chevron, blason, etc. Passons. Pour analyser les quatrains Nostradamus, il faut un code. Ce code, la famille royale en dispose, mais partiellement. Il faut une autre clé. Une clé qu'il faudra aller récupérer le moment venu à un endroit convenu, et cela en cas de malheur. En cas de malheur justement prédit par Nostradamus, ou plus exactement, on devrait dire, prospectivé, en fonction de ses calculs. Calculs dont il s'explique dans la préface de ses centuries dédiées au roi de France. Alors, je n'ai aucune preuve que Louis XVI ait eu l'intention de se rendre à Stenay dans la Meuse pour aller récupérer je ne sais quel code secret ou document secret qui lui aurait permis d'affirmer avec plus de force sa légitimité en tant que roi de France ou roi des Français. Ce que je sais par contre, c'est que près de Stenay, il y a un petit bois. Ce petit bois fut le lieu d'un drame historique, l'assassinat en 679 d'un certain Dagobert II, qui a été le dernier roi mérovingien en ligne directe, assassinat qui a permis aux Carolingiens de prendre la relève, et ensuite de faire le lit des Capétiens 3 siècles plus tard. Vous voyez que ça commence à être un peu compliqué. Alors, résumons ce qui apparaît comme un drame shakespearien. Au début, Clovis, roi des Francs, un peuple germanique, désigné par l'évêque Rémy comme le fondateur légitime d'une dynastie que l'Église de Rome à l'époque voudrait bien voir succéder à l'Empire romain. Par la suite, il y aura un Saint-Empire romain germanique, revendiqué par beaucoup de monde, et ce jusqu'à nos jours, car le couple France-Allemagne, c'est l'éternel royaume franc, avec sa branche germanique et sa branche franque ou francique. Le francique d'ailleurs qui avait son vocabulaire propre. Et le tout uni par une religion monothéiste qui elle-même est issue du judaïsme, lequel judaïsme est vraisemblablement issu d'un autre peuple, puisque même certaines légendes font remonter tout cela à l'histoire de l'Iliade, quoi, à Troie. Bon, stoppons ici cette remontée dans le temps qui nous entraînerait trop loin. Mais retenons que ce couple France-Allemagne aura marqué l'histoire pendant des siècles, et n'oublions pas que si Louis XVI a l'intention de réclamer assistance à l'empereur d'Autriche, c'est qu'il réclame aussi assistance à son beau-frère, ça reste dans la famille. Donc Clovis fonde le royaume franc, Dagobert va agrandir ce royaume avec l'aide d'un autre évêque, Saint-Éloi, de Noyon, et c'est à Noyon d'ailleurs que 3 siècles plus tard, Hugues Capet se fera sacré roi de France. On est toujours dans la même région. Sigisbert, fils de Dagobert, aura pour fils Dagobert II. Ah oui, mais alors il y a un autre clan chez les Francs, c'est le clan de Pépin de Herstal. Alors Pépin de Herstal, il voudrait bien le pouvoir aussi. Alors c'est très simple, il va faire assassiner Dagobert II. Et voilà, un régicide, un crime rituel en fait. Il n'y en aura pas qu'un seul d'ailleurs. Vous savez, les Mérovingiens, c'est vraiment une lignée qui a été assassinée. Assez périodiquement, ça devient presque une institution encore. Dagobert II, c'est le premier roi de France à être proclamé saint. Eh oui, c'est le tout premier, il y a un saint Dagobert. Alors pendant quelques années, il va être l'objet d'un culte un peu partout. Et puis petit à petit, on va éviter de parler de lui, on va nier son existence. On va finir par croire que c'est un roi de légende, qu'il est simplement issu de l'imagination populaire. Il faudra attendre 1927 pour qu'un historien retrouve justement sa trace historique. Alors pourquoi cet oubli jusque dans des arbres généalogiques, puisqu'on a vu des arbres généalogiques complètement truqués? Eh bien parce que Pépin de Herstal et ses descendants veulent à tout prix être présentés comme des Mérovingiens, ce qu'ils ne sont pas. Dagobert II, c'est le roi nié, c'est le roi fait néant. Voilà l'origine du terme, il est fait néant, c'est en 2 mots. C'est la lignée qu'on ne veut pas reconnaître, mais sa descendance est peut-être pas éteinte. Là aussi, il y a des légendes ou des bruits. Pour le moment, je n'en sais pas plus. Il faut rappeler que les Mérovingiens sont rois par le sang. Non seulement par le sang, mais aussi par élection au sein de leur lignée. Ce sont donc des choses importantes à savoir. Et ce sont des Francs. Pépin de Herstal, Charles Martel, Pépin le Bref, qui est le fils de Charles Martel, Charlemagne, les autres Carolingiens, ne sont pas rois par le sang. Mais ce sont des Francs, donc ils ont droit quand même à la couronne par élection. Et puis Hugues Capet, donc, je disais, 3 siècles après l'assassinat de Dagobert II. Ben, Hugues Capet, lui, ce n'est pas un Carolingien, il n'est même pas franc. Or, il est interdit aux Francs de prendre un roi en dehors de la famille Pépin, puisque c'est la famille Pépin qui est héritière des Mérovingiens. Eh bien, pour que Hugues Capet se fasse reconnaître roi, du moins les autres maires du palais qui sont avant lui, il va y avoir des discussions, des palabres, des dépositions, des usurpations, des sacres de complaisance. Finalement, il sera sur le trône, puisqu'il va être donc sacré à Noyon par l'évêque de cette ville. Si ça s'arrêtait là, ça serait trop simple. Il y a aussi un prétendant carolingien qui n'est pas du tout d'accord avec l'élection de Capet. Il s'agit de Charles de Lorraine. Alors Charles de Lorraine, comment résoudre le problème? Bien, Capet va faire comme tout le monde, il va faire saisir Charles de Lorraine et le laisser crever en prison. Et voilà, c'est tout simple aussi. Et pendant ce temps, certains s'interrogent, parce que d'abord, Gobert II, bon, il est assassiné, on l'a canonisé, et puis on l'a oublié, et puis il revient un peu à la surface, et puis on raconte qu'il a eu un fils, qui lui aussi a disparu, puis qui revient à la surface aussi, et ce fils aura peut-être aussi des descendants secrets. Vous voyez, un peu comme l'histoire se complique. Donc si les descendants secrets existent, ils peuvent prétendre à la couronne de France, ce qui veut dire que toute la ligne capétienne est totalement illégitime. Autrefois de Bouillon, ben, il va devenir le premier roi franc de Jérusalem. Et ça va être un roi franc qui sera élu à la manière franque, par acclamation. Alors la boucle apparemment semble bouclée. J'ai fait allusion tout à l'heure aussi avec l'origine vraisemblablement hébraïque de la lignée franque, qui descendrait aussi selon la légende de Énée. Vous savez, le vaincu de la guerre de Troie, ceci est une autre histoire. Mais rappelons simplement que l'abbaye d'Orval, sur les terres de Godefroy de Bouillon, fut fondée par des moines cisterciens, dont le travail particulier a été de mettre au point une traduction de l'Ancien Testament. Et avec l'aide de qui? Avec l'aide de quelques rabbins qui se trouvaient en Bourgogne, et notamment le plus célèbre d'entre eux, qui est encore vénéré aujourd'hui par les rabbins actuels, c'est quand même le rabbi de Troie. N'oublions pas aussi que dans la région de Stenay, enfin pas très loin vers la frontière belge, il y a une petite ville qui s'appelle Aviot, qui est un nom tout à fait hébraïque. Alors l'analogie entre la Troie de l'Iliade et puis la Troie champenoise n'est peut-être pas seulement phonétique. Alors Orval, c'est près de Stenay, le décor est mis en place, les acteurs, on commence à les connaître.
Xavier va sonner, c'est le docteur Morel qui le reçoit. C'est un homme de taille moyenne, fort, le regard sympathique, bon enfant. Le bureau, il l'a fait rentrer, est sombre, car les volets sont fermés, juste éclairés par une lampe sur le bureau. Je vous écoute, monsieur. Voilà, docteur, j'ai écouté par hasard à la radio une de vos émissions où vous parliez de la fuite du roi Louis XVI. De son probable arrêt à Stenay et des prédilections de Nostradamus. Vous avez dit que vous aviez une petite idée sur la clé qui permettrait de déchiffrer les prédictions qu'il a faites à la famille royale. Ceci m'intéresserait de connaître vos idées. Je suis surpris, jeune homme, que vous veniez me déranger pour cette affaire. Ici, c'est mon cabinet de travail. Je ne reçois que des gens qui ont besoin de mon aide en tant que médecin. Vous auriez pu m'écrire. Je m'excuse, mais je n'y ai pas pensé. Mais si ce que vous avez dit à la radio m'a tellement intéressé que j'ai voulu tout de suite en savoir plus.
Malheureusement, je ne sais rien de plus.
Pourtant, vous aviez dit à la radio.
Le docteur haussa ses épaules. J'ai simplement dit que j'avais une petite idée, comme beaucoup de gens ont des petites idées là-dessus.
Quelle est votre idée ?
La clé se trouve peut-être dans les armoiries de Nostradamus, mais je ne sais rien de plus.
Pourquoi vous intéressez-vous tant à cette histoire? Si je vous le disais, vous ne me croiriez pas.
Dites tout de même.
Si je faisais partie moi-même de la famille prodigieuse.
Il ne faut pas rêver, mon jeune ami.
Voyez, vous ne me croyez pas.
Prouvez-le-moi.
Je ne le peux, mes preuves sont en lieu sûr. Mais je peux malgré tout vous le prouver Donc vous allez me faire une prise de sang et l'analyser.
Je veux bien, ça peut vous faire plaisir.
Le docteur se lève.
Suivez-moi.
Et le mène dans la pièce contiguë. Après lui avoir fait la prise de sang, Si vous avez la preuve que je suis de la race prodigieuse, me direz-vous votre idée sur la clé ?
Je n'ai pas la clé, je crois simplement que c'est dans le blason de Nostradamus.
Xavier est déçu. Il a donné son sang pour rien et dévoilé son identité, risquant sa vie et celle de son fils comme un imbécile. Une semaine plus tard, il téléphone au docteur Morel pour savoir s'il a les résultats.
Oui.
Je peux venir vous voir ?
Si vous voulez, demain à 10h.
Xavier sonne, c'est le docteur qui lui ouvre. Bonjour monsieur. Il le fait rentrer dans son bureau. Xavier lui demande, vous avez les résultats de ma prise de sang ?
Oui.
Le docteur sort des papiers de son tiroir.
Vous avez un sang particulier.
Vous croyez maintenant ?
Plutôt oui, mais vous pouvez me donner plus ample explication. D'où venez-vous ? Que cherchez-vous ?
D'où je viens ? Une longue histoire. Ce que je cherche, vous le savez.
Votre famille est nombreuse ?
Dieu seul le sait.
C'est étrange. Je croyais que c'était une légende. Donc, le dérieur roi mérovingien avait bien un fils. Et le tombeau du premier roi, vous savez où il est ?
Oui, mais je ne peux vous le dire. Les hommes sont contre nous et nous ont remplacés par des gens sans grade. Mais d'après Nostradamus, nous reviendrons pour vous guider. Pour le moment, c'est encore trop tôt. Personne ne doit savoir que nous sommes là. Xavier se lève. Veuillez me pardonner, monsieur, mais il le faut. Il sort un revolver de sa poche. Le docteur est tombé la tête la première sur son bureau. Un grand trou rouge sur le front. Xavier prend la feuille d'analyse. La met dans sa poche et sort. Une semaine plus tard, Xavier Hilson, c'est Monseigneur Leclerc. Qui le reçoit dans son bureau. Il lui dit tous les événements qui se sont passés. Après réflexion, le prélat lui dit
« Madame le roi avait raison. L'essentiel a été fait, la lignée continue. Vous devez consacrer votre vie à votre fils et chercher cette fameuse clé. Dieu a voulu que vous soyez l'héritier de cette race. Quant à ceux qui sont morts, le père et le fils, le rôle devait être achevé, comme celui d'Hélène, pardon, Madame le roi. Mais vous, le vôtre, n'est pas fini. C'est vous qui devez préparer l'avenir. Vous avez tout en main, l'héritier, l'huile sainte, la bague, les écrits du roi et de Nostradamus. Il ne vous reste plus que la clé. Attendez que Dieu vous fasse signe et en attendant, éduquez votre fils en le protégeant.
Quand recevrai-je le signe, mon père ?
Seul Dieu le sait. Il était prédit que Richard devait régner. Il est mort. Il y a eu sûrement erreur dans la lecture des prédilections. Il nous faut la clé. Attendons.
Pourrais-je compter sur votre aide s'il m'arrivait quelque chose ?
Bien sûr. C'est le pacte qui officialisait les Mérovingiens comme rois et successeurs des Césars. L'Église immortelle, la vraie, celle qui est hors temps et mode, vous aidera toujours. »
Monseigneur se lève.
« Mon fils, allez en paix. La légitimité est avec vous. Attendez un signe du ciel pour agir. En attendant, vivez simplement avec votre fils, que vous devez protéger des hommes, mais non de Dieu. »
Sa vie s'incline et sort.
Louis XVI, il va chercher du secours, d'accord. Il se rend à Montmédy, ça c'est le point de vue historique. Il se fait choper à Varennes. On peut penser qu'il se rend à Stenay. Et là on tombe dans l'élément ésotérique de l'histoire. C'est-à-dire qu'il va chercher une espèce de preuve de sa légitimité symbolique. Tout cela, est-ce qu'il a finalement loupé son évasion? Alors j'ai aussi une petite hypothèse personnelle. Je ne suis pas loin de penser qu'il a voulu assurer une légitimité par le sang à son fils Louis XVII, en se sacrifiant, comme les Mérovingiens, en se laissant assassiner.
Radio Canu vous a présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Du sang pour les élus, dont c'était la quatrième partie. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP.